Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, 20h35, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, on débrief l'actu avec Marjorie Paillon ce soir, Didier Sens et Jérôme Colombin. Messieurs, dames, on termine l'anonymat des réseaux sociaux.
Ouais,
Jérôme, tu voulais nous dire un truc là-dessus.
Écoute, moi franchement, j'ai pas d'avis tranché sur cette question qui est super délicate, parce que effectivement, c'est deux logiques qui s'affrontent. Pourquoi on est contre la levée de l'anonymat, enfin pseudonymat, enfin non, puisqu'il ne s'agirait pas de lever le pseudonymat, mais enfin de pouvoir identifier plus facilement les gens. C'est parce que oui, on part du principe que dans certains pays, à certains moments, certaines personnes ont besoin de se cacher pour les lanceurs d'alerte, révéler des choses, etc. Mais d'un autre côté,
il y a aussi d'autres personnes qui, tout au long de l'année, tout au long de leur vie, crachent sur des collègues. Enfin, il y a.
Mais voilà, mais c'est le côté obscur de la force.
Le harcèlement.
Mais c'est ça. Et on a quand même atteint. Et il se réfugie là-dessus, derrière ça. Paul Midi, c'est ce qu'il met en avant. En fait, c'est une manière de dire, attendez, ok,
ça suffit,
quoi. On peut avoir une
vision idéologique. On va pas pénaliser tous les internautes pour des délinquants, tu vois ce que je veux dire.
Pourquoi tu dis pénaliser? Qu'est-ce qui te pénalise
Tu as déjà une carte d'identité, une carte sésame vitale, une plaque d'immatriculation à ta voiture,
t'es identifié à ta banque. Exactement où tu es.
Je veux dire,
mais c'est la même chose. Tu commets un crime dans la rue, tu te fais arrêter et tu vas en prison. Tu commets un crime sur Internet, on te lève ton anonymat et on te retrouve.
Tu parlais tout à l'heure de... Du procès.
On va pas le faire pour tout le monde.
Tu parlais
on va
des
pas
procès
ficher tous les gens.
Tu parlais, mais c'est pas plus fiché. Enfin, encore une fois, je veux pas défendre le truc, hein, mais je trouve qu'il faut pas avoir une position idéologique ni d'un côté ni de l'autre. Il faut vraiment réfléchir de manière pragmatique face à un problème qui est réel. Et tu disais, tu parlais du procès de Mila, des harceleurs de Mila. Ok, très bien. Mais pour un procès de cyberharceleur, il y a combien de familles qui sont confrontées à des problèmes de famille ou d'un
génie
ou
d'un... Ça n'a rien à voir avec le fait de
ou d'indépendants, des journalistes qui s'auto-censurent parce que sinon ils se font harceler.
Ok, ça a à voir avec le fait qu'il n'y a pas assez de moyens et de personnel engagé dans cette lutte.
Ok, et tu vas régler ce problème-là comment?
Eh ben, je sais pas. Du coup,
si.
Qu'on augmente le budget, tu vois,
c'est une
décision politique.
C'est aussi peut-être
un problème juridique.
C'est aussi peut-être de simplifier les procédures. Si un policier dans un commissariat de quartier, en trois clics, parce qu'il est policier, sous contrôle d'une autorité judiciaire, avec des traces administratives, peut savoir très vite qui se cache derrière un compte sur un réseau social, je sais pas, faut se poser la question.
Non,
c'est
attendez,
peut-être pas absurde.
Juste un truc, regardez un petit peu la sécurité routière. Au départ, les radars n'étaient pas automatiques. Hein. Il y avait un gars qui était là avec son pistolet, il surveillait comme ça, au tournant, et de temps en temps, il en chopait un. Okay ? Alors qu'il y avait beaucoup plus de gens qui roulaient très vite. Mais il n'avait pas le temps, en fait, de recharger son machin et tout. Sont arrivés les radars automatiques. Mmh. Finalement, quand on transpose ça à Internet, c'est un peu Hadopi. Hadopi piste les adresses IP qui sont dans l'illégalité parce qu'ils téléchargent des fichiers pirates.
Et alors, où tu veux en venir?
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait très bien avoir une espèce de, si tu veux, de surveillance, mais qui soit assez light et qui permette à, je sais pas moi...
D'intervenir plus vite.
D'intervenir à des fonctionnaires,
à partir du moment
où il y a quelqu'un qui remonte une information...
Moi, j'arrive pas à me résoudre de penser que tous les gens sont coupables a priori. Je ne comprends pas ça.
C'est pas la question.
C'est ça l'idée. On va enregistrer l'identité de tout le monde, comme ça on saura si c'est eux ou pas. C'est ça l'idée. On leur demande de s'inscrire, de donner une preuve de leur identité, etc. A priori.
Aujourd'hui, avec l'adresse IP, on sait exactement que tu es derrière ton ordinateur.
Oui, parce que tu as commis une faute.
Mais utilisateur lambda. Enfin, quand tu utilises ton réseau social.
Mais personne n'a besoin de savoir si c'est toi ou
mais
pas.
Tu
si
communiques
c'est pas
forcément
toi,
sur ton adresse IP par défaut, la plateforme sur laquelle tu es en train de communiquer.
Sur ton téléphone ou sur ton ordi.
Donc la question ne se pose même pas.
Mais non, alors la question, c'est un vieux serpent
de mer
parce qu'elle remonte d'abord à la question.
Oui, mais on les aura pas. Ça n'existera pas.
Donc ce que tu brainstormer à voix haute, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait avoir finalement des systèmes de vérification d'identité automatisés. Donc c'est des IA vérificatrices d'identité.
Ça s'appelle la Chine. À partir du moment où on les sollicite, qu'elles ne soient pas systématiquement.
Ça s'appelle pas,
ça s'appelle pas le social credit system
non plus. C'est pour ça justement que le gouvernement aujourd'hui essaie de dire à Paul Midi, on t'a déjà dit non une première fois, on va te redire non une deuxième fois, parce que notamment ces dispositions-là, je vous signale qu'elles sont quand même un petit peu dans quelque chose qui appelle le DSA et qui nous dit que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal
en ligne. Voilà, exactement.
Donc, il y a déjà tout un volet de régulation et de législation qu'il suffit juste d'appliquer.
Qui a dit que sur les réseaux sociaux, il fallait absolument être anonyme et faire absolument n'importe quoi? Parce que c'est aussi quand le sujet de l'anonymat revient, tu as toujours les vieux de la vieille, tu sais, ceux qui ont connu la netiquette et compagnie, là.
Qui fait un boulot formidable par ailleurs sur les libertés en ligne.
C'est une position un peu idéologique sur Internet. Ça doit être la liberté absolue.
Non.
Et les réseaux sociaux, ça doit être le bordel généralisé.
Il vaut mieux que les autorités réagissent quand un problème est identifié, quand un crime est commis.
Ça, c'est déjà le cas. Mais plutôt que d'avoir des précogs
comme dans Minority Report, où on va s'amuser à savoir avant que le crime soit commis, qui est susceptible de le commettre.
Sans que ce soit bienvenu à Gattaca. Mais sans que ce soit bienvenu à Gattaca ou Minority Report, ça me rappelle juste les débats, parce que je suis une très vieille personne, qu'on a eu il y a quelques années sur la loi de programmation militaire, où on s'écharpait exactement sur les mêmes points. Sur la question de l'identification des utilisateurs et des utilisatrices, et sur le fait que la loi de programmation militaire voulait renforcer justement la vérification des identités des internautes. Non, ça ne vous rappelle pas des débats qu'on aurait pu avoir ici par rapport à moi? Ça me rappelle sur d'autres plateaux, mais bon voilà. On est en train de se reposer les mêmes questions une dizaine d'années après.
Parce que c'est super difficile, c'est où est-ce qu'on met le curseur, c'est
de la démagogie. De dire, il n'y a qu'un fichier tous les internautes, comme ça, tout de suite, on va mettre un terme au harcèlement. C'est n'importe quoi.
Tu te ferais harceler par une bande de psychopathes, tu ne trouverais pas que c'est démagogique.
Mais ce n'est pas la question. Je porte plainte et je demande aux autorités judiciaires de retrouver ces mecs-là, comme l'a fait Mila, comme l'a fait Magali Berda, comme l'a fait
un pauvre mec tout seul dans un village et qui va aller se battre.
Mais ça changera quoi pour lui? C'est exactement la même chose.
Non mais regarde, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un truc qui soit un peu entre les deux? Par exemple, tu es sur Twitter, tu te fais harceler, d'accord? Tu signales ton tweet et qu'à ce moment-là, Twitter envoie ce tweet aux autorités qui pourraient... Attends,
c'est une boîte privée.
Non, attends, laisse-moi terminer. Mais tu sais qu'on peut très bien avoir des injonctions et que Twitter soit obligé par une loi. Bien sûr. Mais à ce moment-là, que l'auteur de ce tweet, qui est malveillant, qui aurait été vérifié et, on va dire, vérifié comme être malveillant, eh bien, à ce moment-là, il reçoit un mail officiel parce qu'on a retrouvé son adresse IP. Attention, monsieur Didier Sens, sous votre pseudo Josette92, vous avez harcelé Jérôme Colombin et vous l'avez traité de ça.
Décidément, Josette.
Non, mais attention, premièrement, première fois, ça va. Deuxièmement, lettre recommandée. Troisièmement, vous aurez une amende. Tu vois, un truc tout bête comme ça, qui pourrait calmer peut-être les ardeurs des gens qui se cachent derrière des réseaux sociaux pour faire n'importe quoi.
La question, c'est est-ce que c'est pénal, criminel, est-ce que... Voilà.
Tout dépend de
la qualification. Si ça rentre dans un cadre juridique identifié comme étant un crime, un délit ou je ne sais quoi, les autorités judiciaires arrivent et disent à monsieur Twitter... Qui est ce bonhomme-là?
Et ça, ça se fait tous les jours. Ça se fait par paquet de sang tous les jours, ce truc-là.
Mais donc c'est là que je dis pourquoi il y a besoin de lever l'anonymat, puisqu'on sait que c'est lui qui a envoyé le tweet. Après, on va voir le monsieur avec son adresse IP. On dit à monsieur Orange ou à monsieur Bouygues qui est le bonhomme qui a son adresse.
Mais ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas.
Il y a un truc qui marche pas, c'est le manque de moyens et le manque de détermination.
Vous n'êtes pas d'accord.
Au-delà des moyens, au-delà de la législation,
on va pas y arriver.
Il y a aussi une question toute bête, c'est l'éducation. Peut-être que si on apprenait un petit peu mieux aux utilisateurs que nous sommes, qu'on est aussi citoyens et citoyennes du numérique,
Oui, tu arriveras à faire baisser de 10% le niveau de haine.
Oui, mais il y a un moment où c'est aussi extrêmement important de comprendre.
Mais tu sais, il disait une chose, et il a été beaucoup raillé d'ailleurs, Paul Midi. Encore une fois, je ne veux pas défendre son truc, mais il parlait de sentiment d'anonymat. Absolument. Et tout le monde a rigolé sur le hack. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sentiment d'insécurité, sentiment d'anonymat. C'est pas idiot. Sentiment d'anonymat, sentiment d'impunité. Et il existe ce sentiment d'anonymat et d'impunité. Tous les cyberharceleurs dont tu parles, pour Mila et pour toutes les autres affaires, ah, mais moi, je ne me suis pas rendu compte, j'étais chez moi et tout. C'est ça la difficulté.
Mais c'est justement si tu reçois un mail officiel dans ta boîte mail, mais c'est surtout là, vous êtes allé un petit peu trop loin sur ce tweet, faites attention.
Ça devrait être le boulot des modérateurs de X et de
compagnie. Je faisais le parallèle avec Adopi parce que c'était un peu ça finalement Adopi.
Une réponse graduée sur les
on avait une réponse graduée, on recevait un mail et puis après tu recevais un recommandé.
Je sais pas si ça marchait d'un autre côté.
Je sais pas, mais peut-être que ça marcherait pour les réseaux sociaux.
Mais c'est surtout que là, en fait, pour aller sur les réseaux, tu devrais décliner ton identité, en gros. Alors, c'est vrai que ça fait un peu policier, ça, je suis d'accord.
Des amis.
C'est ça l'idée.
Bon, voilà. On va pas y arriver, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a chacun des avis un peu tranchés sur ce sujet. Est-ce que vous serez aussi tranché avec Truth Social de Donald Trump, lancé, rappelez-vous, ce réseau social en 2021, lorsqu'il s'était fait bannir de Facebook, de Twitter, etc. Il avait un petit peu vexé. Il avait créé son réseau social. Et aujourd'hui, ce réseau social fait une entrée en fanfare à la Bourse de New York. Marjorie.
Fait une entrée en fanfare à la Bourse de New York parce que entre le lancement de Truth Social et aujourd'hui, il y a notamment eu un groupe média qui s'est constitué autour des activités médias et social media de Donald Trump, qui aujourd'hui répond au joli nom de Trump Media and Technology Group Corporation. Et l'indice sous lequel Truth Social est coté aujourd'hui, c'est DJT, Donald J. Trump, tout simplement, et qui en effet a énormément plus sur son premier jour de cotation aux investisseurs et aux investisseuses. Ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'énormément d'investisseurs y sont allés avec des gros financeurs du Parti républicain et surtout des pro-MAGA, Make America Great Again, c'est surtout le fait de voir à quel point finalement on a affaire à des défenseurs de Donald Trump qui veulent voter avec leur portefeuille.
C'est ça. Ils ont voté à la bourse.
Absolument.
C'est ça.
Et on va voir dans le temps.
D'autant qu'il était dans une situation financière compliquée.
Exactement, parce que lundi, le tribunal de New York, en l'occurrence, lui réclamait un petit peu plus de 450 millions d'euros.
Après, ça a été baissé à
175 pour le coup. Donc, il a pas ce demi-milliard presque de millions de dollars, je vais y arriver, à régler de façon sonnante et trébuchante. Mais la valorisation de Truth Social aujourd'hui est à plus de 3 milliards, si je dis pas.
13
milliards à 13 milliards désormais. Ah oui, avec la cotation de 13 ans.
Qui est complètement délirant.
Ça marche, Truth Social ? Enfin, moi, je ne sais pas.
Non, parce que c'est un
peu. Mais non, ils sont déficitaires. Ils sont déficitaires.
D'abord, ils gagnent pas d'argent.
Ils ont 5 millions d'utilisateurs à peine.
Ils perdent 50 millions de dollars chaque année.
Donc, ils ne sont pas du tout rentables. Pour donner un ordre d'idée, dans le même temps.
D'ailleurs, tout ça, c'est le soutien de Donald.
Mais on a un autre réseau social qui a fait son IPO en même temps, c'est Reddit. Et Reddit, pour le coup, ils sont largement bénéficiaires. Ils gagnent 800 millions de dollars par an, si je ne dis pas de bêtises. Leur cotation est extrêmement aussi bien valorisée par les investisseurs et les investisseuses. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a juste un vote par portefeuille interposé qui a été fait par les pro-MAGA sur ce pari-là du DJT côté...
C'est incroyable. Mais c'est vrai, quand on prend un peu de recul, qu'on regarde ça, en plus, vu d'Europe et de France...
5 millions d'utilisateurs pour Truth Social.
Oui,
c'est une estimation.
Ouais,
c'est parce que ridiculement, le réseau social ne...
C'est ridicule. Non,
c'est même pas la base du Parti républicain. Donc,
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va permettre à Trump de récupérer un petit peu de sous, de pouvoir payer ses amendes.
Il a 6 mois de carence. Bon...
Comme quoi, cette histoire qui a commencé comme un gag, quand il a créé Social, tout le monde se foutait de sa gueule en disant « Ah, les niens,
regardez. » Il a transformé ça en or, en tout cas pour l'instant.
Et c'est devenu
le début, on sait pas.
C'est devenu le moyen pour lui de rebondir. Quoi.
Alors, là, c'est la priorité, de trouver du cash. Hein.
Oui, pour le coup,
il fait d'autres trucs, il vend des bibles, je sais pas.
Alors oui, il y a cette magnifique collaboration avec un éditeur de bibles. Il y a une collaboration dont il a fait la promotion avec un éditeur de bibles qui, dans la Bible, met aussi la Constitution américaine. Donc c'est en deux en un. Ah, ouais. Et Donald Trump faisait une vidéo en expliquant que la Bible était son livre préféré, qu'il en avait plusieurs à chez lui, d'ailleurs. Tellement il aime la Bible, il en a plusieurs chez lui. C'était absolument magnifique. T'as aussi les fameuses baskets, les Trump sneakers qui sont dorées avec des petites ailes sur le côté de toute beauté. Et tu as aussi un parfum Donald Trump, si tu as envie, évidemment, d'avoir la fragrance de Donald Trump. Tu as aussi cette magnifique bouteille qui est un petit buste de Donald Trump.
Après, on en parle parce que c'est
la fragrance de Donald Trump après les meetings ou avant les meetings?
J'ai pas envie de le savoir. Je peux aller très loin pour la politique américaine, mais là, pas à ce point-là.
On en parle parce que c'est Trump, mais aux États-Unis, je veux dire, le moindre petit business, la moindre entreprise, le moindre YouTuber, le moindre podcaster et tout, il a ses objets dérivés.
Oui, il fait du merchandising.
Son merchandising.
Et il ne faut pas oublier qu'on est sur, alors, non seulement une campagne où les deux nominés présumés, en l'occurrence, ont eux-mêmes établi l'âge record de leur nomination, donc deux personnes de 80 ans, quasiment, et ont aussi eux-mêmes établi le record de dépenses sur cette campagne. Donc, en effet, ça demande à cramer beaucoup de cash.
On verra bien.
Quand il lève les mains comme ça, c'est qu'il faut s'arrêter.
Non, parce que on a énormément débordé sur l'anonymat des réseaux sociaux. Mais je pense pas qu'on aura le temps de.
On n'a toujours pas réglé la question.
D'aller sur Big Flo et Oli, là, je pense que là.
Oh, c'est dommage.
Ils vont passer à la trappe. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas trop quoi vous dire, parce que Didier avait sélectionné aussi ce sujet concernant les données personnelles, vous savez, qui ont été raflées avec France Travail. C'est ça, hein? 43 millions de données. Ouais. Et là, il y en a quand même un paquet, hein, les adresses. Les adresses postales, elles sont en vente.
Alors, ils ont annoncé très rapidement qu'ils avaient arrêté les malfaiteurs. Hein. Donc, encore une fois, grâce à l'élevé de l'anonymat. mais les types n'en sont pas restés là. Apparemment, le fichier en question est resté dans un coin, a été transmis à un complice qui, lui, maintenant, propose de les vendre en ligne. Et c'est un vrai problème parce que c'est des informations très complètes.
Alors, elles étaient sur la clé USB, vous savez, du gars qui a perdu son ordi. Il y avait tous les plans des JO,
les Jeux Olympiques.
C'était au même
il y avait aussi les 43 millions de données.
Mais si j'ai bien compris, sur ces 43 millions de données, tu as les données des personnes actuellement inscrites en recherche d'emploi à France Travail.
Et anciens.
Ouais, depuis 20 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, si nous avons réactivé notre statut à l'emploi les 20 dernières années, il y a peut-être des infos, alors qu'ils sont peut-être obsolètes aussi, mais qui doivent.
On va conclure rapidement, comme ça sera fait. Rapidement, pour dire que le danger, c'est pas tellement qu'il y a pas de mot de passe, il y a pas de numéro de carte de bancaire, etc.
Mais il y a des numéros de téléphone.
Il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses IP, des adresses physiques. Donc c'est ça le problème, c'est que ça peut créer un corpus qui va permettre aux arnaqueurs d'asseoir leur escroquerie sur une base légitime. C'est-à-dire, ils vont téléphoner chez vous en disant ah, gna gna, vous êtes bien monsieur machin, numéro de sécu de Schmoll qui habite à tel endroit, etc. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis le deuxième risque, c'est un risque d'usurpation d'identité. Parce qu'ils vont profiter de ces données-là.
Est-ce que je peux être Josette? Si Josette 27, par exemple, utilise l'adresse IP qu'elle a récupérée sur les forums dans le dark web pour justement récupérer ces données des 43 millions de Français qui se sont fait usurper sur le vol de données à France Travail, du coup, le vide anonymat, c'est important. On revient sur notre exemple de départ.
C'est CQFD. Ouais.
Didier, quand il a son regard comme ça, il n'a pas compris.
Non, je ne suis pas compris.
Et puis on est passé de Josette 92 à Josette 27. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas.
C'est beaucoup plus vieille.
Josette 27 a l'air un peu plus jeune. Quoi.
C'est sa sœur. C'est scandaleux, cette histoire de données de France Travail.
Mais ça prouve encore une fois qu'on n'est pas à la hauteur au niveau de nos infrastructures.
Et c'est toujours les mêmes histoires. C'est par le petit partenaire. C'est pas l'organisme lui-même qui est attaqué en direct. C'est toujours par la bande, en fait, que ça arrive.
Tu veux cambrioler une maison, tu passes pas par la porte d'entrée.
Exactement, tu passes par le garage.
Et on va dire la même chose sur les ENT, hein, le réseau des lycées, qui est aussi qui est devenu une passoire, malheureusement.
Oui, mais c'est pas, alors pour le coup, apparemment, c'est pas la même chose. C'est pas une brèche, c'est pas un piratage du réseau. Je sais pas si on peut appeler ça du piratage. Récupération de code et de mots de passe suite à du phishing. Il y a des gamins qui ont dû se faire avoir par des trucs, par des messages qui ressemblait à l'ENT apparemment, et donc les pauvres, ils ont donné leurs identifiants.
La double authentification dans ce cas-là,
absolument. Voilà. Tout à fait.
C'est tout.
On s'arrête là.
Non, on va pas s'arrêter là, monsieur Didier, parce que tu vas nous parler aussi de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site voilà, qui a le mérite d'exister, qui permet voilà, de vous informer sur toutes les attaques que l'on peut subir quand on est dans le cyberespace, comme on disait il y a une trentaine d'années à peu près.
Les autoroutes de l'information.
Les autoroutes de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cybermalveillance.gouv.fr, depuis quelque temps, vous avez Sens Cyber pour apprendre et tester vos connaissances en matière de cybersécurité. Et tu voulais nous en parler.
Je trouvais l'initiative très bonne. C'est intéressant que tout le monde, grâce à un organisme officiel, gouvernemental, puisse s'informer sur les risques, les menaces qui pèsent sur Internet, que ce soit Josette 92 ou Josette 28.
Je change de numéro à chaque fois.
Je voulais tester le premier module.
Attends, laisse-moi finir.
Non, mais attends, le temps estimé, c'est 43 minutes, quoi. Donc, ouais.
43 minutes chose, hein.
Alors, ah oui, donc c'était tes connaissances.
L'initiative est très bien. La CNIL avait déjà fait, je sais pas si vous avez vu, la CNIL avait déjà fait.
Oui, il y a longtemps, vous laissez des
même pour savoir ce que c'est qu'un cookie, les machins, les trucs. Bon, donc c'était très bien que cybermalveillance arrive. Donc j'ai voulu regarder. Et effectivement, c'est très prometteur. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça commence par acceptez-vous les cookies. Alors déjà pour un site officiel qui est censé être un service public, j'apprécie pas des masses. Et deuxièmement, vous voulez savoir où vous en êtes, où on en est de la cybermalveillance, eh bien inscrivez-vous et remplissez le formulaire avec votre nom, votre adresse, votre mot de passe, etc., etc. Donc j'ai arrêté tout de suite parce que profiter d'un service public en donnant mes données, c'est rédhibitoire.
Ah, c'est pour critiquer en fait que vous voulez en parler.
Parce que l'idée.
Non, mais parce qu'il est très bien ce site.
Bah, tu t'es inscrit. T'as donné tes données.
Je me suis pas inscrit pour ça, mais j'y suis déjà allé. Et en plus, je trouve qu'il est pas mal parce que tu y vas souvent, rarement de manière préventive, mais plutôt quand tu as un problème. Et quand tu as un problème, il y a une arborescence qui est assez simple. Vous êtes un particulier, un professionnel, qu'est-ce qui vous est arrivé, tac, 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 et tu te retrouves orienté vers telle ou telle solution. Évidemment, il ne faut pas y aller en pensant récupérer son argent si on a été scammé par téléphone la veille, quoi. Donc, mais quand même,
très bonne
même
initiative à l'origine, et c'est dommage qu'on en arrive encore à ces solutions où on est considéré comme de la marchandise alors que c'est censé être un service public.
Mais enfin, ils vont pas t'envoyer de la pub après.
Si non, mais ils vont s'en servir autrement des données, tu sais très bien.
Non, je sais pas.
Oui, ils vont les commercialiser, ils vont les valoriser.
Cybermalveillance,
non, pas cybermalveillance.
J'en sais rien, je ne sais pas. On les vendra à Meta.
Pourquoi il y a des cookies? Pourquoi est-ce qu'ils te demandent de t'inscrire?
Un peu parano, mais là, avec les réseaux sociaux et cybermalveillance,
je suis. Ça m'évite justement d'avoir enlevé mon anonymat sur.
Mais tu es Josette 89, 92 et 27 en même temps, je le sais.
Bon, et Josette 27, elle aime bien Big Flo et Oli.
Non, mais plus intéressant, attends, juste, on termine.
Merde, on va pas y arriver, on va pas y arriver.
On va y arriver avec Big Flo et Oli, mais plus intéressant, une initiative de Bitdefender.
Oui, ça c'est très bien. Scaméo.
Voilà, Scaméo. Avec leur chatbot, je fais le test et ça m'a amusé. Parce qu'effectivement, c'est un espèce de chat GPT à qui on pose des questions, où on met des images, où on lui donne des liens.
Tu fais un screenshot, tu lui envoies le screen de ton SMS que tu as reçu, il te dit ça sent pas bon.
Ah bon. Et alors je dis, mon fils m'a envoyé un message sur WhatsApp me disant qu'il avait perdu son téléphone et qu'il était très embêté.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Et voilà. Et il m'a répondu,
juste ça.
Il y a un très bon argumentaire où il te dit en gros qu'il faut se méfier, que ça ressemble énormément à une série de phishing qui ont lieu en ce moment sur.
Moi j'ai bien aimé le tweet de Jérôme là-dessus parce que t'as pris une capture d'écran parce qu'on a tous reçu ce message.
Ah oui. Je me suis lâché où j'ai un message, papa, j'ai cassé mon téléphone. Appelle-moi vite.
Aide-moi vite, s'il te plaît.
Je dis, c'est dommage pour toi, t'as plus qu'à changer de papa maintenant. Mauvais PC, ça sert à rien, c'est débile, ça valide le fait que mon numéro existe, mais ça fait plaisir. Ça fait
Allez, pour terminer en clin d'œil, il nous reste quelques secondes. C'était pour vous parler de cette intelligence artificielle générative qui arrive partout, et notamment dans les clips vidéo. C'est le cas de Big Flo et Oli, qui trust les charts français depuis pas mal de temps. Leur dernier single donc a forcément un clip, et le clip dont vous voyez les images a été réalisé par l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont prompté les images de ce clip et le résultat est là. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui sont pour, évidemment, c'est comme tout, des gens qui sont pour et d'autres qui disent ah oui, mais vous comprenez, voilà, vous rendez compte tous ces infographistes qui auraient pu faire ce clip qui disparaissent maintenant, qui n'ont pas été embauchés.
Alors, en l'occurrence, ils expliquent que parce que la chanson et le morceau qu'ils voulaient composer étaient sur les technologies. Ils ont voulu justement tester une techno pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet pratique.
Mais attends, ils vont pas
s'excuser
parce que tu fais
une création. Non, mais voilà, en l'occurrence, l'occurrence, il précise aussi dans la vidéo et en pied de vidéo que le sous-titrage a été fait par Numain et que l'assemblage après de l'ensemble des images générées par IA a aussi été supervisé par un réalisateur humain.
Et le résultat est plutôt joli, moi, je trouve.
Et c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé le passage. C'est un morceau qui dure plus de 4 minutes quand même. Hein. Mais j'ai particulièrement aimé le passage où tout va très vite, en effet. C'est vraiment le titre de la chanson. Et où Elon Musk se retrouve sur des billets de banque. C'est assez,
c'est évocateur.
Ouais, c'est, non, c'est vraiment bien.
Non, mais c'est super intéressant comme sujet parce que c'est celui de la création par intelligence artificielle. Mmh. Et là, ça y est, je veux dire, il ne s'agit pas de dire oh là là, je vais perdre mon travail ou ça va tout changer, c'est affreux ce monde.
Là, tu dois le truc, hein, quand même.
Ça aurait été intéressant qu'il fasse faire la musique par une IA aussi.
Ouais, ils auraient pu.
Peut-être dans un an ou deux.
On fait des trucs magnifiques, mais on est quand même encore à l'étape où on a besoin des humains.
C'est les prémices, là, oui, mais ça, on le sait.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marjorie.
De rien.
C'est un plaisir.
Bonjour, Alice. Merci Didier. Toujours les avis tranchés de Didier Sand. C'est un bonheur. Et puis Jérôme Colombin, évidemment, que vous retrouvez avec Monde Numérique, ton podcast.